Maupassant, La Confession, 1884. Tout Béziers le Rethel avait assisté au convoi et enterrement de M. Badon le Romancé, et les derniers mots du discours du délégué de la préfecture demeuraient dans toutes les mémoires. C'est un honnête homme de moins. Honnête homme, il avait été dans tous les actes appréciables de sa vie, dans ses paroles, dans son exemple, dans son attitude, dans sa tenue, dans ses démarches, dans la coupe de sa barbe et la forme de ses chapeaux. Il n'avait jamais dit un mot qui ne contînt un exemple, jamais fait une aumône sans l'accompagner d'un conseil, jamais tendu la main sans avoir l'air de donner une espèce de bénédiction. Il laissait deux enfants, un fils et une fille. Son fils était conseiller général et sa fille, ayant épousé un notaire, M. Poiret de la Voulte, tenait le haut du pavé dans Béziers. Ils étaient inconsolables de la mort de leur père, car ils l'aimaient sincèrement. Aussitôt la cérémonie terminée, ils rentrèrent à la maison du mort, et s'étant enfermés tous trois, le fils, la fille et le gendre, ils ouvrirent le testament qui devait être décacheté par eux seuls, et seulement après que son cercueil aurait été mis en terre. Une annotation sur l'enveloppe indiquait cette volonté. Ce fut M. Poirel de la Voulte qui déchira le papier, en sa qualité de notaire habitué à ces opérations, ayant ajusté ses lunettes sur ses yeux, il lut de sa voix terne, faite pour détailler les contrats. « Mes enfants, mes chers enfants, je ne pourrais dormir tranquille de l'éternel sommeil si je ne vous faisais de l'autre côté de la tombe une confession, la confession d'un crime dont le remords a déchiré ma vie. Oui, j'ai commis un crime affreux, abominable. J'avais alors 26 ans et je débutais dans le barreau à Paris, vivant de la vie des jeunes gens de province, échoués sans connaissance, sans amis, sans parents dans cette ville. Je pris une maîtresse. Que de gens s'indignent à ce seul mot d'une maîtresse, et pourtant il est des êtres qui ne peuvent vivre seuls. Je suis de ceux-là. La solitude m'emplit d'une angoisse horrible. La solitude dans le logis, auprès du feu, le soir. Il me semble alors que je suis seul sur la terre, affreusement seul, mais entouré de dangers vagues, de choses inconnues et terribles. Et la cloison qui me sépare de mon voisin que je ne connais pas, m'éloigne de lui autant que des étoiles aperçues par ma fenêtre. Une sorte de fièvre m'envahit, une fièvre d'impatience et de crainte, et le silence des murs m'épouvante. Il est si profond et si triste, ce silence de la chambre où l'on vit seul. Ce n'est pas seulement un silence autour du corps, mais un silence autour de l'âme, et quand un meuble craque, ou tressaille jusqu'au cœur, car aucun bruit n'est attendu dans ce morne logis. Combien de fois, énervé, apeuré par cette immobilité muette, je me suis mis à parler, à prononcer des mots sans suite, sans raison pour faire du bruit. Ma voix, alors, me paraissait si étrange que j'en avais peur aussi. Est-il quelque chose de plus affreux que de parler seul dans une maison vide? La voix semble celle d'un autre, une voix inconnue, parlant sans cause, à personne, dans l'air creux, sans aucune oreille pour l'écouter, car on sait, avant qu'elle s'échappe dans la solitude de l'appartement, les paroles qui vont sortir de la bouche. Et quand elles résonnent lugubrement dans le silence, elles n'ont plus l'air que d'un écho, l'écho singulier de mots prononcés tout bas par la pensée. Je pris donc une maîtresse, une jeune fille, comme toutes ces jeunes filles qui vivent dans Paris d'un métier insuffisant à les nourrir. Elle était douce, bonne, simple. Ses parents habitaient Poissy. Elle allait passer quelques jours chez eux de temps en temps. Pendant un an, je vécus assez tranquille avec elle, bien décidé à la quitter lorsque je trouverais une jeune personne qui me plairait assez pour l'épouser. Je laisserais à l'autre une petite rente, puisqu'il est admis dans notre société que l'amour d'une femme doit être payé par de l'argent quand elle est pauvre, par des cadeaux quand elle est riche. Mais voilà qu'un jour elle m'annonça qu'elle était enceinte. Je fus atterré et j'aperçus en une seconde tout le désastre de mon existence. La chaîne m'apparut que je traînerais jusqu'à ma mort, partout, dans ma famille future, dans ma vieillesse, toujours. Chaîne de la femme liée à ma vie par l'enfant. Chaîne de l'enfant qu'il faudra élever, surveiller, protéger, tout en me cachant de lui et en le cachant au monde. J'eus l'esprit bouleversé par cette nouvelle, et un désir confus que je ne formulais point, mais que je sentais dans mon cœur, prêt à se montrer, comme ces gens cachés derrière des portières pour attendre qu'on leur dise de paraître. Un désir criminel rôda au fond de ma pensée. Si un accident pouvait arriver, il en est temps de ces petits êtres qui meurent avant de naître. Oh non, je ne désirais point la mort de ma maîtresse. La pauvre fille, je l'aimais bien. Mais je souhaitais peut-être la mort de l'autre avant de l'avoir vue. Il naquit. J'eus un ménage dans mon petit logis de garçon, un faux ménage avec enfants, chose horrible. Il ressemblait à tous les enfants. Moi, je ne l'aimais guère. Les pères, voyez-vous, n'aiment que plus tard. Ils n'ont point la tendresse instinctive et emportée des mères. Il faut que leur affection s'éveille peu à peu, que leur esprit s'attache par les liens qui se nouent chaque jour entre les êtres vivants ensemble. Un an encore s'écoula. Je fuyais maintenant ma demeure trop petite, où traînaient des linges, des langes, des bas grands comme des gants, mille choses de toute espèce laissées sur un meuble, sur le bras d'un fauteuil, partout. Je fuyais surtout pour ne point l'entendre crier, lui, car il criait à tout propos, quand on le changeait, quand on le lavait, quand on le touchait, quand on le couchait, quand on le levait, sans cesse. J'avais fait quelques connaissances et je rencontrai dans un salon celle qui devait être votre mère. J'en devins amoureux et le désir de l'épouser s'éveilla en moi. Je lui fis la cour, je la demandai en mariage et on me l'accorda. Et je me trouvai pris dans ce piège. Épouser, ayant un enfant, cette jeune fille que j'adorais, ou bien dire la vérité, renoncer à elle, au bonheur, à l'avenir, à tout. Car ses parents, gens rigides et scrupuleux, ne me l'auraient point donné s'ils l'avaient su. Je passai un mois horrible d'angoisse, de torture morale, un mois où mille pensées affreuses me hantèrent, et je sentais grandir en moi une haine contre mon fils, contre ce petit morceau de chair vivante et criante qui barrait ma route, coupait ma vie, me condamnait à une existence sans attente, sans tous ces espoirs vagues qui font charmante la jeunesse. Mais voilà que la mère de ma compagne tomba malade et je restais seul avec l'enfant. Nous étions en décembre. Il faisait un froid terrible. Quelle nuit! Ma maîtresse venait de partir. J'avais dîné seul dans mon étroite salle et j'entrais doucement dans la chambre où le petit dormait. Je m'assis dans un fauteuil devant le feu. Le vent soufflait et faisait craquer les vitres, un vent sec de gelée, et je voyais à travers la fenêtre briller les étoiles de cette lumière aiguë qu'elles ont par les nuits glacées. Alors, l'obsession qui me hantait depuis un mois pénétra de nouveau dans ma tête. Dès que je demeurais immobile, elle descendait sur moi, entrait en moi et me rongeait. Elle me rongeait comme rongent les idées fixes, comme les cancers doivent ronger les chairs. Elle était là, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps entier, me semblait-il. Elle me dévorait, ainsi qu'aurait fait une bête. Je voulais la chasser, la repousser, ouvrir ma pensée à d'autres choses, à des espérances nouvelles, comme on ouvre une fenêtre au vent frais du matin pour chasser l'air vicié de la nuit. Mais je ne pouvais, même une seconde, la faire sortir de mon cerveau. Je ne sais comment exprimer cette torture. Elle me grignotait l'âme et je sentais avec une douleur affreuse, une vraie douleur physique et morale, chacun de ses coups de dent. Mon existence était finie. Comment sortirais-je de cette situation? Comment reculer et comment t'avouer? Et j'aimais celle qui devait devenir votre mère d'une passion folle que l'insurmontable obstacle exaspérait encore. Une colère terrible grandissait, qui me serrait la gorge. Une colère qui touchait à la folie, à la folie. Certes, j'étais fou ce soir-là. L'enfant dormait. Je me levais et je le regardais dormir. C'était lui, cet avorton, cette larve, ce rien qui me condamnait à un malheur sans appel. Il dormait, la bouche ouverte, enseveli sous les couvertures, dans un berceau près de mon lit, où je ne pourrais pas dormir, moi. Et comment ai-je accompli ce que j'ai fait, le sais-je? Quelle force m'a poussé, quelle puissance malfaisante m'a possédé? Oh, la tentation du crime m'est venue sans que je l'aie senti s'annoncer. Je me rappelle seulement que mon cœur battait affreusement. Il battait si fort que je l'entendais comme on entend des coups de marteau derrière des cloisons. Je ne me rappelle que cela. Mon cœur battait. Dans ma tête, c'était une étrange confusion, un tumulte, une déroute de toute raison, de tout sang-froid. J'étais dans une de ces heures d'effarement et d'hallucination où l'homme n'a plus la conscience de ses actes ni la direction de sa volonté. Je soulevais doucement les couvertures qui cachaient le corps de mon enfant. Je les rejetais sur les pieds du berceau et je le vis tout nu. Il ne se réveilla pas. Alors, je m'en allais vers la fenêtre, tout doucement, et je l'ouvris. Un souffle d'air glacé entra ainsi qu'un assassin, si froid que je reculai devant lui, et les deux bougies palpitèrent. Et je restai debout près de la fenêtre, n'osant pas me retourner comme pour ne pas voir ce qui se passait derrière moi, et sentant sans cesse glisser sur mon front, sur mes joues, sur mes mains, l'air mortel qui entrait toujours. Cela dura longtemps. Je ne pensais pas, je ne réfléchissais à rien. Tout à coup, une petite toux me fit passer un épouvantable frisson des pieds à la tête, un frisson que j'ai encore en ce moment dans la racine des cheveux. Et d'un mouvement affolé, je fermai brusquement les deux battants de la fenêtre, puis m'étant retourné, je courus au berceau. Il dormait toujours, la bouche ouverte, tout nu. Je touchai ses épaules, elles étaient glacées, et je les recouvris. Mon cœur, soudain, s'attendrit, se brisa, s'emplit de pitié, de tendresse, d'amour pour ce pauvre être innocent que j'avais voulu tuer. Je le baisai longtemps sur ses cheveux fins, puis je revins m'asseoir devant le feu. Je songeais avec stupeur, avec horreur, à ce que j'avais fait, me demandant d'où viennent ces tempêtes de l'âme où l'homme perd toute notion des choses, toute autorité sur lui-même, et agit dans une sorte d'ivresse affolée, sans savoir ce qu'il fait, sans savoir où il va, comme un bateau dans un ouragan. L'enfant toussa encore une fois, et je me sentis déchiré jusqu'au cœur. S'il allait mourir, mon Dieu, mais que deviendrais-je, moi? Je me levai pour aller le regarder, et une bougie à la main, je me penchai sur lui. Le voyant respirer avec tranquillité, je me rassurai quand il toussa pour la troisième fois. Et je ressentis une telle secousse, je fis un tel mouvement en arrière, comme lorsqu'on est bouleversé par la vue d'une chose affreuse, que je laissai tomber ma bougie. En me redressant après l'avoir ramassée, je m'aperçus que j'avais les tempes mouillées de sueur, de cette sueur chaude et gelée en même temps que produisent les angoisses de l'âme, comme si quelque chose de l'affreuse souffrance morale, de cette torture innommable qui est bien en effet brûlante comme le feu et froide comme la glace, transpirait à travers les os et la peau du crâne. Et je restai jusqu'au jour penché sur mon fils, me calmant lorsqu'il demeurait longtemps tranquille, et traversé par des douleurs abominables lorsqu'une faible toux sortait de sa bouche. Il s'éveilla avec les yeux rouges, la gorge embarrassée, l'air souffrant. Quand ma femme de ménage entra, j'envoyai bien vite chercher un médecin. Il vint au bout d'une heure et prononça, après avoir examiné l'enfant, « N'a-t-il pas eu froid? » Je me mis à trembler comme tremblent les gens très vieux et je balbutiai, Oh non, je ne crois pas. Puis je demandai, Qu'est-ce que c'est? Est-ce grave? Il répondit, Oh non, c'est rien encore. Je reviendrai ce soir. Il revint le soir. Mon fils avait passé presque toute la journée dans un assoupissement invincible, toussant de temps à autre. Une fluxion de poitrine se déclara dans la nuit, et cela dura 10 jours. Je ne puis exprimer ce que j'ai souffert devant ces interminables heures qui séparent le matin du soir et le soir du matin. Il mourut, et depuis ce moment, je n'ai point cessé une heure, non pas une heure, sans que le souvenir atroce, cuisant, ce souvenir qui ronge, qui semble tordre l'esprit en le déchirant, remuât en moi comme une bête mordante enfermée au fond de mon âme. Oh, si j'avais pu devenir fou! Monsieur Poirel de la Voulte releva ses lunettes d'un mouvement qui lui était familier quand il avait achevé la lecture d'un contrat. Et les trois héritiers du mort se regardèrent, sans dire un mot, pâles, immobiles. Au bout d'une minute, le notaire reprit. Oh, il faut détruire cela. Les deux autres baissèrent la tête en signe d'assentiment. Il alluma une bougie, sépara soigneusement les pages qui contenaient la dangereuse confession des pages qui contenaient les dispositions d'argent, puis il les présenta sur la flamme et les jeta dans la cheminée. Et ils regardèrent les feuilles blanches se consumer. Elles ne firent bien plus bientôt qu'une sorte de petit tas noir. Et comme on apercevait encore quelques lettres qui se dessinaient en blanc, la fille, du bout de son pied, écrasa à petits coups la légère croûte de papier flambé, la mêlant aux cendres anciennes. Puis ils restèrent encore tous les trois quelque temps à regarder cela, comme s'ils eussent craint que le secret brûlé ne s'envolât de la cheminée.